Bienvenue sur le podcast de Nat Véro, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Salut Vincent.
Bonjour les filles.
Merci de nous accueillir chez toi Vincent.
C'est un plaisir.
Avec même une petite tarte à l'orange qui est délicieuse, merci beaucoup. Vincent, on est là.
J'avais pas prémédité de faire la cuisine en vous accueillant pour que vous fassiez une idée des hommes un peu différentes. Ouais.
Mais clair. Non, écoute, on est hyper contente de venir avec un petit goûter. Écoute, fait maison, c'est hyper appréciable. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi. On ne sait pas beaucoup de choses sur toi et c'est pour ça qu'on est là. On sait juste que tu as eu un parcours amoureux où tu as rencontré trois femmes avec qui tu as fait trois enfants. Et on va en parler un petit peu. Mais avant de ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Alors, je m'appelle Vincent, j'ai 56 ans. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'écrire des chansons, parfois de chanter aussi. Et mon parcours, j'ai travaillé très longtemps dans la publicité.
Ouais.
Et puis, mais j'avais toujours cette double vie, interprète, compositeur, chanteur, auteur. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité d'arrêter la pub et j'ai fait que des chansons.
Ok.
Et au niveau de ta famille, ton modèle familial, ou quel genre d'ado t'étais? T'avais des frères et sœurs?
J'ai trois sœurs et un frère, et une enfance très ennuyeuse.
Pourquoi elle est ennuyeuse?
Je ne sais pas, parce que je m'ennuyais durant mon enfance, je ne comprenais pas trop ce qu'on me faisait vivre. Je trouvais ça très stéréotypé par rapport à mes rêves, par rapport à ce que j'imaginais qu'il était possible de faire dans la vie.
C'était quoi tes rêves, par exemple?
Mes rêves, c'était de, par exemple, l'école, je trouvais ça très long.
Ouais, chiant.
Très chiant. Moi, j'aimais bien écrire, j'aimais bien créer. Je trouvais qu'il n'y avait aucune place laissée à la création. Le système des notes, la compétition, tout ça, ça ne m'allait pas du tout. En plus, j'étais dyslexique. Donc, j'avais beaucoup de mal à...
Tu t'y retrouvais pas, quoi.
Non, et j'étais dyslexique tout en ayant une passion pour le français, ce qui était compliqué. Donc, par exemple, mon parcours est assez bizarre puisque je suis dyslexique, j'avais des très mauvaises notes au bac français. Et 6 ans plus tard, j'ai eu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour mes disques.
Ouais, voilà. Comme quoi, ça veut rien dire.
Et donc, ça donne une idée un peu du parcours que j'ai dû... ce que j'ai vécu en étant à chaque fois rabaissé, parce que la dyslexie, ça t'empêche de performer. Et en même temps, j'avais beaucoup d'imagination, mais c'était jamais pris en compte. Et je vivais un enfer.
Incompris, quoi.
En classe. Bah, incompris par tes parents, incompris à l'école. Pour un enfant, ça fait beaucoup.
Et si on parle de rêve amoureux, toi, t'avais un peu. C'était quoi un peu ton schéma idéal de couple ou de famille quand t'étais ado? Tu disais, est-ce que tu te projetais déjà en te disant, moi, quand je serai grand, t'avais un schéma déjà type en tête ou pas du tout?
Alors. En tant qu'ado, moi je rêvais pas en tout cas de recomposer un foyer. Hein. Ma quête, c'était de me faire le plus de nanas possible. surtout parce que, sans doute, moi j'avais besoin d'être aimé. Donc plus tu multiplies les conquêtes, plus tu as l'impression d'être aimé. Et en même temps, tu n'as pas l'impression d'être aimé, puisque quand c'est compliqué dans ta vie de famille, tu n'as pas la capacité de te sentir aimé. Donc, tu peux multiplier les conquêtes, mais tu ne te sens jamais vraiment aimé. Et puis, sinon, qu'est-ce que je cherchais chez les filles quand j'étais... Non, mais
Tu as eu beaucoup de relations amoureuses, ça a commencé tôt?
À quel âge j'ai commencé des relations un petit peu sexualisées très tôt, mais après, des relations amoureuses plus tard, ouais.
D'accord. Tu étais plutôt timide ou entreprenant, toi?
Ah non, très timide.
Ah oui.
Très timide.
D'accord.
Et aujourd'hui, je me rends compte avec le recul, c'est pas de la flagornerie, mais je me rends compte que j'ai eu de la chance d'avoir un physique pas trop déplaisant et qui a fait que je n'ai pas eu à faire les démarches pour aller vers les filles, c'est elles qui sont venues vers moi. Et si, avec le même caractère, si j'avais pas eu ça, je pense qu'aujourd'hui, je serais peut-être devenu
un
personnage.
Non. Un prêtre.
Je serais pas devenu un moine, je pense que je serais devenu quelqu'un de très inquiétant.
Ah oui.
Très, très frustré, très mal dans sa peau.
D'accord.
Bon. Et du coup, donc, t'as pas envie forcément de reproduire le schéma de tes parents ou...
Au contraire.
Au contraire, c'est l'inverse.
Ouais. J'ai envie de fuir ce schéma-là. D'accord. Où j'ai l'impression qu'on vit ensemble, mais que il y a pas de fusion et que ça marche pas. Et je comprends pas pourquoi on s'ennuie dans ce schéma-là. Non, j'ai envie de fuir ça.
Ok, donc faire tout l'inverse des parents. Du coup, on va aborder donc la femme numéro 1. J'aime pas trop le dire comme ça, mais voilà.
La première femme de ta vie.
Avec qui, enfin, la femme avec qui tu as eu le premier enfant.
Ah, on passe directement à ça.
Ouais, tu voulais parler de...
Non, parce que la première femme de ma vie, c'est forcément pas la première femme avec qui j'ai eu un enfant.
Mais parlons-en, allez. On va en parler, cette première femme de ta vie.
Celle avec qui j'ai eu un enfant ou celle avec qui j'ai couché?
La première avec celle qui t'étais amoureux, en tout cas. La première femme dont tu es tombé amoureux.
Ah non, mais la première femme, déjà, c'est celle qu'on embrasse en ressentant une émotion amoureuse. Ça, c'est le... Parce qu'avant, quand on est enfant, il y a la découverte du sexe. Mais il n'y a pas d'amour. C'est l'interdit, on franchit un interdit. Mais bon, c'est juste un peu scabreux et introspectif. Mais après, il y a embrasser pour la première fois.
C'est à quel âge, ça?
Je ne sais pas, 14 ans peut-être.
Ouais. Ça va, c'est... Mm.
Correct.
Je sais pas c'est quel pas est trop. Le bon âge.
Mais non, il n'y en a pas de bon ou de mauvais. Mais
C'est jamais de la vie, on oubliera la première fille qu'on a prise dans ses bras.
C'est vrai.
La première étrangère à qui l'on a dit tu, mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère. Ça, c'est Brassens.
D'accord.
Et c'est vrai que ben voilà, il y a des femmes qu'on n'oublie jamais, c'est les premières fois. Donc, Elisabeth von Rosendorff.
Ah, si tu nous écoutes.
Si tu te reconnais, depuis l'Allemagne.
Génial.
Donc c'était une étrangère, c'était en vacances du coup.
C'était dans un camp.
Ah, les vacances, c'est magique pour ça. Hein.
C'est clair.
Les premiers émois, tout ça.
Et de jamais se lasser d'embrasser. C'est quelque chose de dingue.
Et tu te souviens encore de son nom en plus.
Ouais, mais...
Prénom, nom quoi.
Ouais.
Ouais, donc ça t'a vraiment marqué.
Bah oui.
Ok. Et après
C'est pas rien de découvrir, en n'étant pas sûr de soi, qu'il y a une femme qui est d'accord pour faire une fusion, pour se mélanger.
Ça fait peur ?
Non, au contraire, c'est hyper rassurant.
Okay.
C'est une bascule dans la vie hyper rassurante. On se dit, il y a quelqu'un qui est d'accord pour faire le couvercle du pot. C'est complètement fou.
La métaphore.
C'est toi le pot et elle le couvercle ou
l'inverse ? Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui est d'accord pour... pour passer des heures à t'embrasser. C'est sidérant.
Et ça, pour un homme, c'est...
Moi, je peux pas parler, je peux pas... Je sais pas si c'est valable pour tous les hommes, mais
pour
moi...
Toi, ouais.
Bah oui, parce que un truc dont on parle peu sur les hommes, c'est que on a l'appréhension de notre sexualité. On a l'impression que c'est dégoûtant, notre sexualité. Parce que c'est très voyant, c'est très prégnant. Et donc... Que ça ne rebute pas une femme, c'est perturbant. C'est rassurant, perturbant. On se dit, moi je trouvais que c'était courageux de sa part, enfin des choses comme ça.
Est-ce qu'on a peur de ne pas assurer ou pas?
Non, ce n'est pas une question que je me posais à 14 ans, la peur de ne pas assurer. Non, c'est venu plus tard. Mais... je sais pas si je ne pense pas que j'ai jamais eu peur de pas assurer.
Non, parce qu'on entend souvent des mecs qui peuvent flipper de. En tout cas, la première fois, enfin, c'est quand même une étape un peu clé pour vous.
Moi, j'ai pu avoir peur quand j'étais amoureux, mais pas de pas assurer au plumard, par exemple.
Okay.
Ça, c'est pas. Et puis, je sais pas, j'ai aussi le parcours a fait que je me suis rendu compte que. On n'était jamais... Enfin, assez rapidement, je me suis dit, on n'est jamais un bon coup tout seul. Donc ça ne m'a pas... Comme ça me préoccupait, j'ai dû en parler beaucoup. Et j'ai été un mauvais coup parfois un bon coup, mais ça ne dépendait pas que de moi, on était deux. Donc ça ne m'a pas tellement inquiété.
Et si on parle de la...
La première femme, alors.
Non, on passe à la deuxième. C'est quand même important, là. Celle qui, avec qui, donc, t'as eu ta première relation sexuelle.
Ah, c'était...
Comment s'appelle-t-elle? Si tu nous écoutes.
Celle-là, je vais pas en parler parce que c'était une catastrophe.
Ah, ouais. D'accord.
C'est rarement extraordinaire, les premières fois, je trouve.
Mais c'était très compliqué parce que elle était plus âgée que moi et je ne comprenais pas du tout ce qu'elle cherchait.
Okay.
On n'était pas du tout synchrone.
D'accord.
Et donc, c'était très, très désagréable. Et en plus, moi, j'ai fait une bêtise, c'est que je ne lui ai pas dit que c'était la première femme.
D'accord.
Donc, oui. Ça n'allait pas du tout.
D'accord.
Et en plus, elle cherchait des choses que moi ne m'attiraient pas ou même qui me dégoûtaient, parce que c'était ma première femme.
Mais pourquoi tu l'avais choisie alors? Quel était t'avais...
Bon, le problème, c'est que j'étais,
quel était ton bénéfice,
j'étais souvent choisi.
Ah.
Et pareil, comme je n'envisageais pas de... Moi, j'étais assez précoce, je suis méditerranéen, je faisais plus que mon âge. Et donc, je ne plaisais pas aux filles de mon âge. Ce qui était un problème, parce que moi, j'étais plus attiré par les filles de mon âge que par les filles un peu plus âgées. Mais je ne plaisais pas aux filles de mon âge. Donc, je me suis retrouvé avec une fille plus âgée. C'était compliqué pour moi à gérer. Donc, je n'osais pas lui dire que c'était la première.
Elle était beaucoup plus âgée.
Ouais. Elle avait 5 ans de plus, mais à l'époque... Quand...
Oui, ça fait une grande différence.
Ouais, quand tu as 16 ans et demi, ça fait beaucoup. Donc, c'était... Ouais.
Normal.
Et elle avait plus l'habitude que moi, donc elle cherchait des choses qui, moi, dans une première relation, ne m'allaient pas du tout.
Ouais.
Et donc, ça ne se passait pas bien du tout.
Ok, ben, parlons alors de la première femme de ta vie.
Non, mais attends, ça fait déjà 3 fois qu'on dit la première, donc il faut peut-être un peu...
Ah oui, parce que nous, dans notre chronologie,
si, après, la première vraie amoureuse avec qui j'ai vécu, c'était génial, par contre.
Ouais.
C'était formidable.
C'était à quel âge, ça?
Bah, c'était après, dans la continuité, donc je devais avoir 17 ans.
Okay. Et tu vis avec elle?
Non, je ne vis pas avec elle, mais elle a un petit studio, et donc on est assez libre. Non, voilà, c'est pas une vie de couple, mais c'est...
Et ça, c'est genre ton premier amour ou...
Ouais, c'est mon premier amour.
Est-ce que tu crois à ce moment-là que ça va durer toute la vie ou pas? Est-ce que tu es un peu comme nous, on aurait pu l'être? Tu crois à cette idée de conte de fées où la première peut être la dernière et que vous allez faire toute votre vie ensemble, vous êtes tellement amoureux que tu crois à ça ou toi d'emblée tu sais déjà que bon, c'est
alors
bien
crois
là pour
que,
le moment
mais... Je crois que les femmes, vous avez une capacité d'anticipation qu'on n'a pas.
Ouais, c'est clair. Donc, là je comprends que tu ne te poses pas du tout de questions en fait, par rapport
à ça.
Je
ne me pose pas la question. Moi j'ai cette impression là, avec l'âge que j'ai, d'avoir compris au moins une chose.
Ouais.
C'est qu'on ne se ressemble pas du tout, mais il faut s'aimer quand même.
Ah bah ça,
Et que, a priori, les hommes, on a une vie assez linéaire. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas tellement de différence entre ce que je recherchais quand j'avais 18 ans et ce que je recherche aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est assez... Et en revanche, je rencontre les femmes et elles sont cycliques. Donc comme moi, je suis linéaire et qu'elles sont cycliques, parfois on se croise.
Ouais.
Mais ce n'est pas si fréquent que ça.
Parfois, on se rate.
Ouais. Donc, à intervalles réguliers, moi, je suis une ligne droite et il y a des cercles, comme ça, des circonvolutions. Donc, effectivement, mathématiquement, on se croise. Et ça revient régulièrement de se croiser, mais c'est pas évident.
Tu dis que tu cherches tout le temps la même chose, c'est quoi?
C'était ma question,
Tu dis que tu cherches... C'est quoi cette ligne, alors? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne directrice?
Déjà, mon corps n'a pas tellement changé entre 16 ans et 56 ans. J'ai un peu vieilli, même pas mal, mais je n'ai pas eu d'enfant, mon ventre n'a pas changé, je cherche toujours à me reproduire, j'ai toujours mon instinct me pousse toujours à regarder chez une femme si elle a la capacité encore de procréer. Je pense que c'est... Et moi, j'ai toujours la capacité de procréer, j'ai un enfant qui a 7 ans, donc je recherche toujours la même chose. Alors que les femmes que j'ai rencontrées, qui aujourd'hui sont ménopausées, par exemple, elles sont passées à une autre vie. Elles n'ont plus les mêmes... Moi, quand je les ai croisées, elles voulaient avoir un enfant, puis après, elles voulaient l'élever, puis après, elles voulaient une maison secondaire, et puis après, elles voulaient... maintenant, elles doivent vouloir une vie un peu plus calme, un peu plus posée, alors que moi, ma vie n'a pas tellement changé.
Mais toi, t'as pas envie de ça?
De me reposer?
T'as pas envie d'avoir une maison secondaire, de vivre cet après qu'elles ont envie, elles?
C'est pas tellement... Je pourrais avoir envie de ça, mais c'est pas tellement ça qui guide ma vie, puisque moi, ce que je recherche chez une femme, c'est toujours sa capacité à avoir des enfants. Donc j'ai une femme qui est plus jeune que moi, je viens d'avoir un enfant avec elle, je continue à me lever le matin pour l'accompagner à l'école, alors que je l'ai fait déjà avec ma fille il y a 28 ans.
Ouais.
Donc ça prouve, enfin, dans ma vie en tout cas, que c'est complètement linéaire. Je change de femme, mais je change pas de vie. Oh. Alors que les femmes, quand on se sépare, elles changent de vie.
D'accord. C'est intéressant de faire la transition pour reprendre juste le début de justement, tu dis que tu as une fille de 28 ans, donc juste cette première femme avec qui tu as eu ton premier enfant. Mm-hmm. Ça s'est passé comment et juste, et on déroulera, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est comme si tu voulais pas vieillir en fait aussi. C'est un peu ça.
Bah si, je vieillis, mais je ne change pas. C'est très bizarre. Bien sûr, je vieillis.
Mais du coup, à chaque fois, tu changeras de femme, du coup, puisque quand elles pourront plus procréer, il faudra en trouver une autre à chaque fois, à chaque fin de procréation.
Mais en tout cas, moi, je recherche toujours la même chose. Ouais. Je recherche toujours la même chose. Quand je trouve une femme séduisante, j'y peux rien. Mon instinct, c'est, je pense, me guide vers une femme séduisante parce qu'elle veut des enfants, parce que.
Et donc, ouais. Toute cette notion de couple, de relation, finalement, c'est secondaire pour toi ? Parce qu'on a l'impression que l'enfant, c'est limite l'objectif principal.
Non, ce n'est pas l'objectif. C'est moi, j'en ai pas conscience. Mm. C'est mon instinct, je pense.
D'accord. Ah oui. C'est instinct animal, quoi. Ça fait très animal, ouais. Biologique, enfin tout ça, ça fait...
Par exemple, aujourd'hui, ça ne me viendrait jamais à l'idée, on parlait de maison secondaire, d'être séduit par une femme parce qu'elle a une maison secondaire, une vie tranquille à la campagne et de me dire tiens on va s'installer ensemble et on va vivre, ça me viendrait jamais à l'idée. Mais
et donc t'as toujours su que tu voulais, que tu cherchais ça chez une femme?
Je cherche pas le fait d'avoir des enfants, mais sa capacité à en avoir. Je pense que ce qui m'attire chez une femme, c'est son instinct maternel, mais pas qu'elle cherche à avoir des enfants, hein. Son instinct maternel, parce que je pense que peut-être je vais en bénéficier déjà de son instinct maternel
que t'as peut-être pas eu pendant ton enfance par
exemple, peut-être ça aussi, mais c'est son instinct maternel, c'est pas pour être traité comme un enfant, c'est une forme d'humanité que j'apprécie,
une qualité que tu apprécies particulièrement chez une femme.
Mais est-ce que c'est pas un peu déguisé c'est pas un peu dire je recherche une femme plus jeune que moi, dire je cherche une femme c'est un peu la même chose?
Non, c'est pas du je pense pas que je recherche une femme plus jeune que moi.
D'accord.
Parce que quand j'ai vécu avec ma femme précédente par exemple, c'est pas moi qui suis parti.
D'accord.
C'est elle qui est partie et moi j'aurais bien vécu avec une femme de mon âge, ça m'aurait pas dérangé, mais je pense que mes aspirations qui continuaient à être les mêmes ne collaient pas à ses aspirations qui changeaient.
D'accord.
Le cercle et la ligne ne se sont plus croisés.
Et par exemple, quand j'ai rencontré ma compagne actuelle, j'étais dans une période un peu floue de ma vie et j'avais 6 compagnes différentes.
Du coup, on n'est jamais revenu sur la chronologie.
Mais alors là, on va oublier la chronologie.
Ouais, on oublie la chronologie et on part sur les 6 femmes différentes. C'est intéressant.
Donc on part en arrière. On est sur la troisième compagne avec qui tu vis actuellement.
Ouais.
Et donc, quand tu la rencontres, tu es dans un passage flou et tu es déjà avec 6 compagnes.
Je me suis dit, je ne m'engage avec personne, donc je vis librement. Donc, j'ai plusieurs maîtresses.
Elles sont au courant toutes les unes les autres ou...
Non, pas toutes. Il y en a certaines qui sont au courant, d'autres qui ne sont pas au courant, ça dépend. Je vis librement. Mmh. C'est-à-dire que je m'engage avec personne, je dis à personne, tu es la femme de ma vie, je t'aime, je vais rester avec toi tout le temps. Mais je vis librement.
Et donc, te plaît, ça ?
Ouais, c'est agréable.
Ou au bout d'un moment, tu en as un peu marre quand même ?
Non, j'en ai pas vraiment marre. Non, c'est assez agréable. Naturellement, il y a celle parmi les 6, il y a la femme qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà, et au départ, moi, je n'envisage pas du tout, alors que parce qu'elle a, quand je la rencontre, elle a 22 ans et moi, je dois en avoir 40, un truc comme ça, un peu moins, 39. Donc, j'imagine pas du tout de faire ma vie avec elle, d'autant qu'elle, elle est aussi avec quelqu'un.
D'accord.
Donc, on est amants et tout va bien comme ça, on se voit de temps en temps.
Et qu'est-ce qui fait qu'elle devient l'élu, que tu vires les 5 autres et qu'il n'y a plus qu'elle qui reste ?
Petit à petit, comment expliquer l'amour ?
Justement, on est là pour ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, les hommes, à ce moment-là ?
Elle a certainement quelque chose de plus.
Ouais, peut-être que je la sens... C'est bizarre, alors que c'est la seule qui est déjà avec quelqu'un. Et donc, on peut dire, considérer qu'elle trompe la personne avec qui elle est. C'est celle que je sens la plus fiable.
Et c'est peut-être ce côté inaccessible aussi, non ?
Non, mais je la trouve pas inaccessible. Et je crois que ce qui me plaît aussi, c'est que elle correspond, alors qu'elle est maternelle, elle correspond à ce que attend un homme. C'est-à-dire qu'elle me dit demain, si on est toujours ensemble, est-ce qu'on va au cinéma? Et ça me plaît d'envisager que demain on n'est peut-être pas ensemble. Mmh. Et puis au bout d'un moment, elle me dit la semaine prochaine, si on est toujours ensemble, si on se faisait un week-end. Et comme il n'y a pas d'engagement, je me sens hyper libre.
Hyper libre.
Et donc aimer en se sentant libre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi.
On va avoir l'impression, parce que finalement, elle est peut-être très maligne de faire ça.
Oui, mais
et finalement, le fait qu'elle soit en couple aussi, ça lui permet aussi d'avoir de la légèreté par rapport. Parce qu'elle est déjà engagée ailleurs, quelque part.
Mais après, quand elle s'est désengagée, parce que ça n'a pas duré très très longtemps, le fait de vivre une double vie pour elle, on n'a pas habité ensemble et ça a continué comme ça.
D'accord.
Alors, j'espère qu'elle était très maligne. Mais
non,
parce
ou
que...
pas, peut-être que c'était
naturel. Si, mais j'espère, parce que je crois justement que dans une relation, il faut être très malin. Et je ne crois pas du tout au fait de se mettre ensemble et de se dire on va se laisser porter et par nos sentiments. Et tout ça va bien se passer.
Et quand tu la rencontres, donc, elle sait que tu as déjà eu deux femmes auparavant avec qui tu as eu déjà deux enfants.
Elle sait même que j'ai d'autres maîtresses en même temps.
Elle sait même, d'accord, donc elle est au courant de tout. Est-ce que, du coup, ça, j'imagine, j'allais dire, est-ce que ça lui fait peur? Mais finalement, on a la réponse, pas forcément. C'est pas quelque chose qui la bloque ou qui la... Bon, à ce moment-là, en tout cas.
Ça lui fait forcément peur à 22 ans de rencontrer un mec qui a déjà deux filles grandes. Oui, si ça doit lui faire peur.
Et toi, comment tu te sens à l'idée de reconstruire quelque chose avec elle
Justement, je n'ai pas l'impression que je reconstruis, parce que ça se fait tellement lentement. Ça se fait petit à petit, on ne vit pas ensemble, on passe les nuits ensemble, et des fois on ne passe pas les nuits ensemble, elle a son appartement, j'ai le mien. Mais c'est, je pense que le truc le plus important que j'ai appris dans la vie de couple, c'est de ne pas se laisser aller. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas voir quelqu'un quand on a envie de le voir, c'est hyper important. Ne jamais se dire « Ah ben c'est cool, on vit ensemble, je peux laisser la porte des toilettes ouverte », c'est hyper important. C'est ça, en fait, c'est plus les efforts qui font qu'on vit ensemble. Enfin, je parle pour moi, je ne parle pas pour les hommes. Mais moi, ce qui est plus important, c'est les efforts qu'on continue à faire plutôt que la vie de couple.
Ouais. Du coup, Véro,
tu veux reprendre la chronologie?
On est un peu perdu dans notre interview.
Ah oui, vous aviez
interview.
Un chemin.
Non, mais c'est bien.
On s'adapte. Non, mais juste, est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu, juste pour qu'on ait un peu l'image globale, c'est-à-dire que la première femme avec qui tu as eu ce premier enfant, vous êtes restés combien de temps ensemble?
Et c'était à quel âge, toi?
Alors, j'ai eu ma fille quand j'avais 27 ans. Donc, je devais être avec elle depuis 3-4 ans avant. Voilà.
D'accord. Okay. Et ça a duré?
Après notre enfance, ça a dû durer un an.
D'accord.
Un an.
Et tu hésites à... Enfin, déjà, pourquoi est-ce que ça se termine? Est-ce que c'est parce qu'il y a une lassitude? Il y a eu quelqu'un qui rencontre une autre personne? C'est à ton initiative, à la sienne?
Ouais, je pense qu'on... aussi, quand je dis que les femmes sont cycliques... J'ai appris une chose, c'est qu'on rencontre une femme et on découvre une mère qu'on ne connaît pas. Donc, quand la maman devient quelqu'un d'autre, on n'est pas obligé d'être en phase avec la maman.
En fait, tu veux dire quand ta femme se transforme en maman, parce qu'elle a un enfant, et c'est un comportement que tu... Elle a des comportements nouveaux que tu ne connais pas.
Ouais, voilà.
Et qui, toi, peuvent te faire peur ou te...
Ou pas te convenir.
De pas te convenir à ce moment-là.
Ouais.
Et plus te convenir. Et...
Par exemple, si une femme, quand elle a un enfant, se consacre, devient la maman uniquement de l'enfant et oublie le reste, ça peut ne pas convenir.
Bien sûr,
oublie sa relation de couple.
Alors
par
après, peut-être que l'homme est responsable de... Mais quand même, une maman, quand elle a un enfant, c'est elle qui donne l'accès au père. Si une maman refuse l'accès au père, le père n'a jamais accès à l'enfant. Parfois, se séparer de la maman, ça peut être une solution pour avoir accès à l'enfant. Parce que du coup, on le partage et on a chacun...
Des moments privilégiés.
Voilà. Ou si une maman idolâtre son enfant et se consacre qu'à lui et oublie la vie de couple, ça peut aussi être la raison. Donc, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'on rencontre une femme et quand on a un enfant avec elle, on découvre une femme différente.
Une mère, quoi.
Et ça peut être, la mère peut continuer à être séduisante, mais c'est pas forcé parce que c'est quelqu'un de complètement différent.
Et ça, on parlait d'anticipation tout à l'heure, mais est-ce que tu as anticipé ça? Tu t'es dit, ça va changer quelque chose l'arrivée d'un enfant? Vous en avez parlé ensemble ou pas? Vous êtes laissé porter pour le coup et t'as découvert un peu sur le tas que ça changeait fondamentalement, que la femme pouvait avoir un comportement complètement différent.
Alors avec ma dernière compagne, je crois que j'ai prévu ça.
Okay.
C'est-à-dire on est resté 10 ans ensemble avant d'avoir un enfant.
Ouais.
Et je crois que j'en avais tellement parlé avant de comment ça devrait se passer, de ce que je serais capable de faire. Parce que aussi, quand on s'est occupé d'enfants depuis 28 ans, est-ce qu'on a envie de recommencer à se lever pour aller à l'école, machin, c'est pas sûr.
Et les nuits.
Et les nuits, machin. Donc on prévient un peu que... voilà. Ouais. Donc les choses étaient vraiment préétablies, on avait beaucoup discuté avant. Ce qui n'était pas le cas forcément avec les autres femmes. Et puis, le miracle avec ma dernière compagne, c'est qu'elle n'a pas tellement changé. Enfin, la maman qu'elle est me convient parfaitement.
Mais c'est un vrai challenge, ça, pour les hommes, de trouver une place quand il y a un enfant qui arrive. C'est de retrouver sa place, de garder sa place d'homme et de mari et de partenaire. Et ça, c'est quelque chose que vous vivez assez...
Et moi, je suis convaincu que, bon, avec un peu de maturité, on peut essayer de garder sa place, mais je suis convaincu que c'est la femme qui la donne la place. Et si elle refuse de la donner, c'est là que ça commence à partir en quenouille.
D'accord, c'est intéressant.
Et donc, quand tu découvres que ta femme est devenue une maman qui ne te convient pas forcément, est-ce que tu hésites quand même à partir par rapport à cet enfant où tu te dis, bon, bah, je ne vais plus le voir quotidiennement, je ne vais pas être là pour plein de choses, plein d'événements. Est-ce que ça te fait douter de partir ou pas?
Alors, pas trop.
Ouais.
Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est la gestion du quotidien, pas la relation que je peux avoir avec mon enfant. Je ne me dis pas que c'est une souffrance intolérable pour l'enfant. Je me dis juste, en termes d'organisation, ça va être compliqué.
Et toi, ça ne te fait pas souffrir d'être séparé au moment où vous vous séparez pour de bon, chacun de son côté? J'imagine, l'enfant reste avec la maman?
Non. Non, je prends le temps. Enfin, je prends aussi une partie du temps. Enfin, au début de la séparation, c'est même plutôt équitable comme répartition. Ouais. Puis ma première séparation, moi je travaille, ma compagne ne travaille pas. Donc c'est aussi différent.
Okay. Et est-ce que tu le vis comme un échec? Ou justement...
Non, je ne le vis pas comme un échec, puisque comme ça ne se passe pas bien, je le vis plutôt comme un soulagement.
Ok.
Me dit bah pourquoi faire perdurer une situation qui n'est pas très agréable à vivre. Passons à autre chose.
Ouais. Ouais.
Non, mais c'est bien de le vivre.
Ouais, c'est vrai. Et ton entourage, est-ce qu'il il se passe quoi que ce soit? Est-ce que tu étais jugé ou est-ce que...
Je crois que je m'en fous.
Ouais.
À ce moment-là, je m'en moque. Okay.
C'est toi et ton bien-être, ta situation qui fait que...
Ce qu'il y a, c'est que mon modèle parental me pousse plutôt à me barrer, puisque moi, j'estime que mes parents auraient mieux fait de se séparer.
Ouais.
Et que j'ai pas envie de reproduire du tout une vie où on reste ensemble, mais à cause des gosses, comme on dit.
Bien sûr.
Ouais, ok.
Une chanson de Pierre Perret aussi. On reste ensemble à cause des gosses et on se fout des baf.
Mais ça, tu vois, est-ce que tu...
Tu veux faire ton analyse psychologique?
Non, mais est-ce que on peut pas le savoir avant? En fait, tu t'en es rendu compte au moment où tu disais elle est devenue mère, ou tu as eu, voilà, et c'est là où c'est un peu vous êtes éloigné.
Tu peux faire un enfant pour arranger les choses, par exemple, et au lieu de les arranger, ça les aggrave. Tu dis tiens, bon, il y a un certain ennui qui s'est installé entre nous. Elle travaille pas, moi je travaille, je comprends qu'elle s'ennuie, on va faire un enfant, puis ça va... Et puis en fait...
Mais cet enfant d'ailleurs? C'est un peu comme ça que ça s'est passé?
C'est-à-dire?
Parce qu'il y avait une sorte de lassitude et d'ennui dans le couple?
Non, c'est pas arrivé comme ça.
Mais alors moi je me dis toujours, quand t'as senti que tu t'ennuyais, ou qu'effectivement ça battait de l'aile, est-ce que tu lui as dit? Est-ce que t'as essayé de dire, tiens, il faut que je lui dise, c'est un challenge. Là, je m'ennuie, je perds ma place. Elle est en train de changer, ça ne me convient plus. Est-ce que tu as essayé de...
Alors, ce qui s'est passé exactement, c'est qu'on était ensemble. on s'est séparés justement parce que on se disait oh là là, moi je lui disais il faudrait quand même que tu aies une activité, c'est pas possible que tu, comment tu fais pour vivre en n'ayant pas de passion? Moi je suis plutôt un garçon passionné, j'ai plein d'activités, donc comment tu fais? Et puis on s'est séparés, et quand on s'est séparés, j'ai trouvé tout d'un coup elle s'est épanouie et elle a commencé à faire plein de choses.
Qu'elle se reposait sur toi un peu en fait.
Ouais, elle se reposait sur moi. Donc on a eu nos vies chacun de notre côté et on s'est retrouvés. J'ai dit tiens, elle a beaucoup changé. Donc on est reparti ensemble et c'est là qu'on a eu un enfant. Et ses travers sont revenus. Mais ses travers sont peut-être, c'est peut-être moi qui les... Peut-être que j'avais un côté rassurant qui faisait qu'elle se disait, moi je gagnais bien ma vie à l'époque, elle devait se dire, je peux me reposer sur lui. Voilà. Peut-être que c'est moi qui provoquais ça. Mais je lui demandais quand même le contraire. Je lui disais...
Ouais. Donc tu avais déjà essayé de communiquer, tu lui avais déjà transmis, tu avais déjà partagé tes angoisses.
Et... J'ai pas décidé d'avoir un enfant en tenant pas compte du tout de comment elle se comportait. Je pensais que ça allait marcher quand même.
D'accord. Ok.
Et donc tu pars parce que ça fonctionne pas bien, pas parce qu'il y a une autre femme dans l'entourage, parce que parfois ça peut aider aussi en déclic.
Alors je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais qui n'était pas libre, donc c'est le simple fait d'être tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ça a suffi à me dire que je ne pouvais pas être amoureux d'elle en même temps, rester là.
Mais c'est ça qui t'aide aussi à partir. Ouais. Et c'est cette personne dont tu tombes amoureux, c'est ta deuxième femme?
Non, non.
Ou non, c'est juste...
Non, elle n'était pas disponible.
Ah d'accord, ok. Elle aurait pu le devenir.
Oui, mais non. Ok. Ça ne s'est pas passé comme ça.
D'accord. Non, la question qu'on se pose souvent, c'est quand tu as eu trois femmes différentes, c'est, moi je me dis toujours, qu'est-ce qui s'est... est-ce qu'à un moment donné, tu te remets en question ou est-ce que tu te dis, tiens, le dénominateur commun, c'est moi? Enfin, remarque, non, tu disais que la deuxième, c'est pas toi qui es partie.
Moi, j'ai fait 7 ans de thérapie.
Ouais.
Donc, c'est une grosse remise en question.
D'accord. Ok.
C'est pas mal. Ouais. 7 ans.
Ouais, et ça t'a aidé dans tes choix.
Quand je me suis séparé de la première femme, de la mère de ma première fille, je lui ai dit que je me séparais. La femme dont j'étais amoureux m'a dit qu'on vivrait pas ensemble. Et mon père est mort le lendemain. Ouais. Et ça, c'est passé en 3 jours.
Ah ouais.
Et donc, j'ai commencé à faire des rêves pas très glamour, où je rêvais que j'étais mort. Et quand je me réveillais, je me disais « Ah merde !» Donc, j'ai commencé à faire une thérapie. Et ça a pas mal changé ma vie, forcément, parce que ça a duré... Pendant 6 ans, j'ai parlé de moi. Et pendant 1 an, j'ai parlé des autres. Pour comprendre les autres.
D'accord. Hyper...
Et tu rencontres cette deuxième femme pendant que tu es en thérapie, du coup ?
Oui.
Okay.
Et quand cette femme me dit qu'elle veut, elle est mariée, et à un moment elle me dit qu'elle veut se séparer, qu'on vive ensemble, et moi je vais voir ma psy et je lui dis voilà, c'est un problème, elle veut vivre avec moi, mais moi vivre avec quelqu'un, franchement c'est un modèle que je vois mes parents, je me vois replonger dans ce truc là, je veux pas du tout ça. Par exemple, moi je voudrais qu'on ait chacun notre chambre, mais elle voudra jamais. Elle me dit, vous lui avez demandé? Et je lui dis,
j'adore ce concept.
Non. Et elle me dit, et pourquoi vous ne lui demandez pas? Et je lui dis, oui, c'est vrai. Je ne lui ai pas demandé.
Et elle a accepté.
Et donc, je lui ai proposé un modèle de vie où je lui disais, alors moi, je veux, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, par exemple. Je lui ai dit, je veux qu'on ait chacun notre ligne de téléphone. Je veux qu'on ait chacun notre chambre. Et elle m'a dit, oui, pour tout.
Génial.
Comme quoi, parfois, la communication.
C'est hyper important. Mmh. Ouais.
Et c'était génial cette vie pendant... Ça n'a pas duré longtemps non plus, mais... Enfin si, ça a duré longtemps, mais c'est pareil. C'est au moment où on a eu un enfant que c'est parti en quenouille.
Ouais.
Ah ouais,
c'est souvent du coup le même schéma qui se réplique. Voilà. Sauf la dernière. qui te donne de l'espace, finalement.
La dernière, ça fait aussi 18 ans qu'on est ensemble.
Ah ouais. C'est ta plus longue relation finalement parmi les trois femmes.
Okay. D'accord. Ok. Peut-être qu'on peut finir avec la dernière partie.
Ouais, j'avais juste des questions sur est-ce que toi, ça te, à un moment donné, si tu veux faire une petite pause.
Non, je voulais allumer la lumière, non ? Ça serait là ou ça ?
C'est vrai qu'on est un peu dans le noir. Allez. Ah,
voilà. Super.
On est sur le bar, dans la cuisine de Vincent.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il faisait un petit peu noir.
On se voit mieux, c'est bon là.
Du coup, non, moi, c'était ma question, c'était à chaque fois, est-ce que t'as peur, en fait, enfin, pas peur, mais est-ce que ça te fait flipper de retomber amoureux après la première, après la deuxième, est-ce que tu te dis, je vais encore être face à quelqu'un qui va pouvoir potentiellement changer une fois qu'elle deviendra mère, ou pas, où tu te lances, en fait, juste comme ça et tu vois?
Non, je me lance, en général,
Ouais.
Il comme... se pose pas de questions, non, avec Véro.
Ouais, non, mais c'est ouf. J'aimerais être un mec juste pour ça, moi.
Mais c'est vrai que notre pouvoir d'anticipation est nul. Hein.
Ouais, mais parfois, c'est pas plus mal.
Non, mais c'est le. Moi, je crois que c'est le quotidien qui nous prouve qu'on a raison de continuer ce quotidien. Ce n'est pas la personne qui se dit ah, avec elle, je vais avoir des enfants. Enfin, moi, j'ai jamais vécu les choses comme ça. Ça m'est arrivé peut-être une fois. Et ça devait pas être, ça serait, enfin, tout ça aurait été tellement fou, ça reposait tellement sur des choses instinctives que je pense que ça n'aurait pas tenu durant la vie. Mais sinon, non, quand le quotidien est tellement agréable, on a envie qu'il dure. Mais je me dis pas. Je me dis jamais, ah, c'est désagréable à vivre, mais je vais faire des enfants avec elle quand même. Ouais. Et c'est elle, machin. Ouais. Alors ça.
Et on parle souvent de rencontrer la bonne personne. Hein, lui, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Est-ce que à chaque fois avec ces femmes, tu t'es dit c'est la femme de ma vie ou pas?
Non.
Non.
Non, je me dis jamais ça. C'est la vie qui me prouve que c'est la femme de ma vie. C'est pas la preuve. Je me suis jamais marié. Je me suis jamais dit. Vous connaissez. Moi, je vis aussi à travers les chansons, parce que souvent les chansons, c'est un résumé. Une concentration inconcentrée de ce qu'on pense. Mmh. Vous connaissez la chanson de Brassens, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main.
Oui.
L'encre des billets doux pâlit vite entre les livres, entre les pages des livres de cuisine. Donc, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être fou, hein, que c'est parce qu'au quotidien, on se dit ah ouais, c'est génial, qu'on va tenir. Si on signe un papier en disant l'avenir va être génial, tout d'un coup, ça devient chaotique.
C'est marrant parce que. Pour moi, un enfant, c'est beaucoup plus engageant que de se marier, par exemple. Et pourtant, tu t'es engagée à trois reprises.
Parce que c'est pas toi qui payes les pensions alimentaires que tu dis ça.
Non, mais engageant, voilà, c'est quand même une responsabilité que tu as à vie. C'est un lien.
Oh, c'est pas possible, ça.
Je me saoule.
Vous connaissez bien, non? Pourquoi vous vivez pas en couple?
Parce qu'on aime les hommes quand même. ouais, c'est un lien quand même, qui est un lien définitif avec une personne que tu as aimée. Et c'est beaucoup plus fort finalement qu'un bout de papier, comme tu dis. Pourquoi t'es jamais...
Non, parce que le lien que t'as avec l'enfant, il est avec l'enfant, il n'est pas avec la personne qui...
Ah, mais c'est quand même une partie de toi et de cette personne. Enfin, tu vois, c'est quand même un mélange de...
La personne avec qui tu vis, tu la découvres à un instant T de sa vie.
Ouais.
Avec tout son passé, tu ne sais pas trop quelles ont été les failles de son passé. Elle ne va pas tout te raconter. Ouais. Et pourtant, toutes ces failles vont se révéler au moment où la personne va devenir maman. En tant que femme, elle va peut-être réussir à cacher tout ça. Quand elle va devenir maman, les failles vont se déclarer. Donc cette autre personne... elle peut commencer à te faire du mal, par exemple. Si elle a eu des rapports un peu bizarres avec son père, quand toi tu deviens père, t'es plus un homme, tu deviens un père. Et si elle se méfie des pères, bah, tu vas en prendre plein la gueule. Donc il vaut mieux s'écarter de cette femme, ne serait même pour le bonheur de l'enfant, que de devenir le mauvais père de cet enfant. Il vaut mieux être un bon père séparé qu'un mauvais père avec la mère. Donc moi je n'ai jamais eu cette angoisse d'être un père séparé. J'ai plutôt eu l'angoisse d'être un père pas séparé, mais qui reproduit un schéma que moi j'avais vécu, que voilà. Et un père dévalorisé, par exemple, ou dans un couple où il n'y a plus d'amour, ou bien entendu l'enfant va le savoir, parce que par exemple un enfant, si on lui dit va ranger ta chambre, et juste que la mère à côté, elle lève les yeux au ciel, l'enfant, il a compris. Il n'y a rien besoin de dire. Donc ça, il faut, pour élever un enfant, une osmose, une complémentarité
absolue.
Absolue.
Ouais. Faire équipe, quoi.
Ouais. Et à contrario, l'enfant, on le connaît depuis l'heure zéro. Mmh. Ouais. On connaît tout de lui. Et donc, ce qu'on va construire avec lui n'a rien à voir avec la maman, quoi. La maman va faire 50% du travail, elle a 50% des gènes, elle va faire 50% de l'autre travail. C'est parfois même indispensable de séparer et de rééquilibrer un peu la balance.
Ouais, et d'ailleurs, tout à l'heure, avant qu'on démarre l'enregistrement, on se parlait un petit peu et tu nous disais que parfois, les femmes, en tant que femmes, il fallait parfois... C'était mieux de trouver le géniteur. Enfin, je ne sais plus comment tu disais ça, mais qu'en gros, parfois, on pouvait juste trouver un géniteur pour faire un enfant et que ce n'était pas forcément la personne avec qui on pouvait vivre. Et ça, c'est intéressant.
Oui.
Parce que nous, on a souvent l'impression que tout doit être idéal, absolu, que le père doit être aussi l'homme de notre vie. Que... Et toi, ta vision, elle est... c'est pas la même. Et...
On peut pas lutter contre son instinct. Je pense que les femmes, quand elles voient un homme, elles voient soit un amant de passage, elles se disent, lui, ça va être un bon coup, soit elles voient le géniteur. Mais le géniteur, ça veut pas dire que ça va être un bon coup. Ni que la vie va être agréable avec.
Mais c'est pas possible de trouver ces choses-là à la fois. Que ça soit à la fois un bon père, un bon coup et...
j'ai l'impression que les femmes sont séduites par trois types d'hommes.
Ok, allez, c'est parti. Numéro 1.
On va dire soit, si oui ou non.
soit des hommes qui leur permettent d'étaler, d'utiliser leur instinct maternel, c'est-à-dire des artistes un peu ratés, mais qui, si on les portait un peu, si on les aidait un peu, ils y arriveraient, mais ils font de la peinture.
Des oiseaux blessés, quoi.
Voilà.
Fragiles.
Fragiles, mais qui, quand même qui ont quelque chose, qui ont un petit talent, mais ils l'exploitent mal, ils ne savent pas s'en sortir. Donc, voilà, ce genre d'hommes. Après, les sauveurs de l'humanité, c'est-à-dire les pompiers, les médecins, les gens qui partent à l'étranger, voilà. Et sinon, les épaules. Les épaules, c'est...
Sur qui on peut compter,
voilà.
Quelqu'un sur qui on...
Soit parce que financièrement, ils ont les épaules, soit parce que physiquement, ils ont les épaules, soit parce que...
Parce qu'ils sont là, quoi.
Parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont présents, ils ont quelque chose de... Voilà.
Moi, ce serait plutôt catégorie 3.
C'est plutôt l'épaule, toi.
Si vous vous reconnaissez, écrivez à Nathé Véro.
Et toi Mais c'est, parfois, ils peuvent avoir plusieurs... Ouais. Plusieurs aspects.
Oui, ça peut être un petit œsophagie.
Non. Mais je pense qu'on change en fait. Je pense qu'on peut être attiré par des hommes quand on est ado. Et ensuite, je pense que tu disais que les femmes changent beaucoup. Et je pense qu'on peut être attiré à différents moments de notre vie par différents hommes.
Bah,
et
ça qu'à dépend un moment donné, si tu cherches le géniteur ou à comprendre comment ça marche.
Ouais.
À un moment, l'horloge, qui est aussi quelque chose de cyclique, l'horloge biologique. Ça va te faire changer d'objectif, d'homme.
C'est vrai.
Et donc, pardon, on t'a coupé du coup parce que nous, les femmes, on est attirées par trois types de mâles.
Ouais.
De mâles.
Mais est-ce que ça c'est les mâles pour vivre. C'est ce qui vous a... Mais est-ce que c'est le bon... Est-ce que dans ces mâles-là, il y a le bon géniteur? Ça, c'est un autre problème.
Bah ouais, nous, on a le même problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un homme et aussi un bon père. Et comme toi, tu disais, les femmes peuvent être une femme, mais pas forcément
c'est pareil
la mère avec qui tu as envie de rester. Et nous, on a la même problématique aussi.
C'est vrai.
Mais pour un homme, le changement, souvent, est plus discret. La bascule, ça dépend. Je dis une généralité, mais les femmes, il y a une vraie transformation dans le fait de mettre un enfant au monde. D'abord parce qu'on le porte, parce qu'on le sent, parce qu'on se sent responsable, parce qu'on le nourrit. Parce que quand pour la première fois, on se rend compte qu'avec son corps, on peut alimenter son enfant, même pour un homme, c'est un truc dément. Ça dépasse l'entendement que ça soit possible. Nous, on ne fera jamais ça. Un enfant, ça restera toujours extérieur à nous.
Ouais.
Donc... Quand une femme se rend compte de cette capacité-là, je pense que ça change tout chez elle. Ouais. Alors qu'un homme, avec un enfant, il se sent peut-être une responsabilité un peu différente, mais son corps n'a pas été transformé, il va lui donner le biberon, mais ça ne sortira pas de son corps, voilà.
Ouais, vous n'avez pas le même rapport à l'enfant, ça c'est clair.
Et puis ça ne va pas modifier notre vie. C'est-à-dire que nous, on a envie que la maman reste la femme. Et puis, mais en même temps, si elle est la maman, on est très content parce que c'est normal qu'elle tienne ce rôle-là, donc c'est compliqué. Et donc, c'est un peu à elle de... C'est les femmes qui ont des vies compliquées. Les hommes, c'est linéaire, comme je
merci.
Disais.
Ouais, elle est un peu trop facile, votre vie, parfois.
Ouais. Non, non, mais...
Et ok, t'avais d'autres questions, Nat ?
Ben moi, je voulais terminer un peu avec justement toi, ce que t'en avais retiré de ces trois expériences, en tout cas, voilà, c'est avec qui ces trois femmes avec qui tu as eu des enfants. Quels seraient un peu les conseils, enfin, pas forcément les conseils, mais c'est quoi toi aujourd'hui ton
constat, ton...
Moi, je crois que vivre ensemble, c'est un contrat. C'est pas une histoire d'amour, c'est un contrat. Alors, c'est de l'amour. C'est-à-dire que, bon, y a une période de passion où les libidos sont synchros, on a envie de baiser trois fois par jour et c'est super. Mais est-ce qu'on continue à baiser trois fois par jour toute sa vie ? Non. Donc, à un moment, la libido de chacun va revenir à sa normalité. Est-ce que dans cette normalité-là, on s'accorde toujours ? S'il y en a un qui a envie de baiser une fois par semaine et l'autre tous les jours, ça va poser un problème. Donc, est-ce qu'on devient synchrone ? Il y a une période de deuil qui suit la période de passion. Dans cette période de deuil, on va se dire, tiens, il a tel défaut, il a tel défaut, il a tel défaut. Et après, il y a l'amour. Avec ses défauts, je l'aime quand même. Une fois qu'il y a cette période d'amour, qu'on est dans la période d'amour, là, il faut passer un contrat. Un contrat, c'est une chose qu'on fait assez peu souvent, c'est de dire à quelqu'un, comment veux-tu qu'on vive ensemble ? Parce que si on ne se pose pas cette question-là, chacun reproduit la façon de vivre ensemble, soit qu'il a vu dans le passé, soit qu'il a dans la tête, mais il n'en parle pas à l'autre, et l'autre peut être désarçonné. Donc, comment on vit ensemble ? Par exemple, la notion de tromper. Qu'est-ce que ça veut dire tromper ? Est-ce que tromper, ça veut dire on se jure fidélité ? Est-ce que tromper, ça veut dire je ne pense jamais à personne d'autre ? Est-ce que tromper, ça veut dire on ne se fait pas de mal ? Moi, par exemple, mon contrat avec ma compagne, c'est on ne se fait pas de mal. C'est-à-dire que si elle a un amant, elle m'en parle jamais. Elle ne le fait pas dans mon entourage, avec des gens que je connais, avec tout le monde au courant et moi pas. Bon, on a des métiers qui font qu'on voyage pas mal. Si on voyage, elle a une relation avec un autre mec, et elle ne m'en parle pas. Elle ne me ramène pas une maladie, elle se protège. Elle ne me fait pas souffrir. À partir du moment où on se fait souffrir, le contrat est rompu. Ça, c'est notre deal.
Et là, il y a rupture.
Et là, il y a rupture. Mais par exemple, dans mon deal, il n'y a pas de tromperie dans le fait d'avoir un amant.
Et ça, ce contrat, tu l'as fait que avec cette troisième femme ? Et c'est justement toutes ces expériences que tu as vécues avant qui t'ont amené à vouloir
aussi
mettre ça en place.
Aussi clairement, oui.
Ouais.
Mais c'est une vraie clé de pouvoir communiquer et parler comme ça avec son partenaire.
Ouais.
C'est un vrai...
Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres contingences de la vie qui sont réglées comme ça. Par exemple, on a beaucoup de liberté. Je regarde jamais dans ses affaires. Elle ne regarde pas dans les miennes. Si j'ai besoin de partir une semaine ou si elle a besoin de partir une semaine avec ses copines, elle me dit je vais là, je vais pas vérifier qu'elle est là.
Si vous avez confiance.
Ouais, voilà, on a confiance, pas dans le fait qu'on se trompera pas, mais dans le fait qu'on se fera pas de mal.
Ouais.
Et tes enfants, donc t'en as trois, donc la plus grande a 28, ensuite c'est 7, c'est ça ?
Non, 28, 22 et 7.
28, 22 et 7. Comment eux, ils ont... T'en as déjà parlé, par exemple, avec les plus grandes, j'imagine, 28, 22, elles sont en âge d'être en couple, voilà.
Elles sont
en couple. Elles t'ont déjà posé des questions par rapport à ça ? Toi, en tant que père, pourquoi t'as eu plusieurs femmes ? Pourquoi... Est-ce que ça les a bloquées, aidées dans leur relation amoureuse perso ? Enfin, peut-être que t'as pas envie de parler de
si,
tes
si,
enfants,
non, mais c'est surtout elles qui m'ont aidée.
D'accord. Ah, intéressant.
Ouais, c'est parce que... comme c'est j'ai deux grandes filles, une de 28 et une de 22, dans leur rapport avec les hommes, j'ai vu que les femmes, ce n'était pas ce que j'imaginais des femmes. Parce que j'ai eu elles ne se sont pas cachées avec moi. Par exemple, ça m'est arrivé que ma fille pleure beaucoup et elle me dise « C'est horrible, il m'a quitté, il est parti. » Je dis « Bon, mais pourquoi il est parti ?» « Parce que j'ai eu une aventure avec un autre mec, il l'a su, il est parti. » Je dis « Ouais, mais bon, c'est normal, là. »
Tu l'as cherché.
Et elle m'a dit « Mais non, mais ça n'a rien à voir. » Donc voilà.
Et ça t'a fait quoi? Ça t'a étonné qu'elle ait pu
Oui, parce que moi, c'est pas du tout la vision que j'avais des femmes. Je pensais que pour qu'une femme se sente aimée, pour l'aimer, il fallait lui faire croire qu'elle était amoureuse si on ne l'était pas. Sinon, on n'avait aucune chance de l'avoir dans son lit, quoi. Mmh. Donc il fallait passer par tout un chemin. Voilà. Et en fait, non, elles m'ont fait comprendre que non, pas du tout. Non, c'est pas comme ça.
Elles t'ont déjà posé des questions ou pas par rapport à... Parce que du coup, quel modèle... Est-ce que t'as déjà parlé du modèle, elles, qu'elles avaient envie de mettre en place? Parce que...
Ah, qu'elles mettaient en place?
Ouais, par rapport à leurs parents, parce que chacune, donc du coup, elles n'ont pas eu leur père forcément présent très longtemps dans leur vie.
Mais mes filles, c'est des killeuses, hein, franchement. Ouais. Ouais. Non, mais les mecs qui vivent avec elles, ils ont du souci à se faire parce que... déjà, moi, en étant père séparé, j'ai appris à faire plein de choses que dans le couple, on ne fait pas forcément.
Ouais.
Parce qu'on se repose sur les femmes. Donc, par exemple, je cuisine.
On a vu ça.
Et très bien, d'ailleurs.
je m'occupe de plein de choses. Enfin, j'ai fait leur lessive. Je fais leur repassage. Je suis capable de tout faire. Mm-hmm. Je ne le fais pas tout le temps, hein, mais je suis capable de tout faire. Mm. Donc, elles ont vu ce modèle-là.
Ouais, donc, elles exigent de leur mec que ça soit...
Et aussi une forme de liberté dans ma vie de tous les jours qu'elles ont reproduit. Alors quand elles sont en couple, mais quand elles ne sont pas en couple, elles déchirent.
J'adore. Ouais. Et le dernier enfant, c'est un petit garçon, une petite fille ?
C'est un petit garçon.
Mmh. Et en tant que petit garçon, est-ce que tu as réfléchi à ce que tu as envie de lui inculquer en tant qu'homme ? Tu as envie de lui transmettre, toi, en tant qu'homme ? Pas forcément dans les relations amoureuses, mais des...
Bah moi, ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, c'est une forme de liberté.
Liberté, oui.
De liberté. Respect, liberté. De pas être... De pas... Encore une chanson de Brassens, quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. J'essaye de faire en sorte qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Par exemple, un truc qui me rend très heureux, c'est que mon fils, il écrit. Il aime écrire. Donc, moi, je donne des cours d'écriture dans une école à Nancy. Et le principal travers des adultes, c'est qu'ils ont mis des barrières entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Et qu'à 7 ans, lui, il n'en met aucune. Et je l'encourage à ça. Et il n'y a pas longtemps, il a commencé à écrire un livre dont le titre m'a rendu jaloux. il a écrit « L'homme qui était là avant le monde ». Ça, c'est le titre du livre.
À 7 ans.
Et donc, moi, j'encourage à ça.
Donc, liberté, respect. C'est les valeurs que tu as envie de transmettre.
Et puis surtout, se libérer d'écrire pour se libérer un peu.
Écrire, ne pas rentrer. Parce que tout ce qui, je ne sais pas si vous connaissez un philosophe qui s'appelle Albert Jacquard, qui a écrit La légende de demain.
Non.
Tout dans la vie, aujourd'hui, pousse à ordonner les choses. Mm. Par exemple, à l'école... On classe le premier, le deuxième, le meilleur de la classe. Or, une société qui ordonne, en fait, elle se mutile. C'est-à-dire qu'elle se prive des gens qui sont en dessous, au prétexte qu'ils ne seraient pas les premiers. Mais pour ordonner les choses, il faut réfléchir dans une seule dimension. C'est-à-dire qu'on peut ordonner des petits pois, par exemple, en disant le plus gros petit pois au plus petit pois, parce qu'ils ont une taille absolue. Mais ordonner des enfants en français, par exemple, c'est impossible. En maths, c'est impossible parce qu'il y en a qui vont être bons en algèbre, bons en calcul mental. Donc, les ordonner, c'est complètement absurde. Même mathématiquement, c'est absurde parce que souvent, quand on dit, on parle de cet enfant et de celui-là et qu'on les compare, le contraire de égal, en mathématiques, c'est différent. C'est égal barré. C'est pas supérieur ou inférieur. Donc, dans une classe, il y a des enfants différents, mais absolument pas d'enfants supérieurs ou inférieurs. C'est le groupe qui fait que y a les personnalités qui font qu'il y a un groupe. Et moi, j'encourage mes enfants à avoir de la personnalité. Et malheureusement, des fois, ils le prouvent un peu trop qu'ils ont de la personnalité.
Okay. Bon, écoute, merci Vincent. Je pense qu'on va juste avoir 4 questions. Je ne sais pas si tu avais des questions en plus, Véro. Mais je pense qu'on a abordé pas mal de... On a abordé pas mal de thèmes, voire plus, et t'as répondu à plein de...
Même si on l'a pas fait chronologiquement, comme on l'avait prévu.
Ah, c'est ça la liberté. Hein.
Exactement.
Ça, on s'est adapté.
De pas ordonner.
On n'a pas ordonné aujourd'hui. On s'est désordonné même.
Du coup, pour terminer l'interview, ce qu'on fait avec Véro, c'est qu'on pose toujours 4 questions à nos invités, et après on dresse un portrait sur Instagram. Et donc pour toi, on avait choisi, et on s'était pas trompé, tu vois.
Ouais, c'est pas mal.
On voulait que tu nous dises quel dîner, quel plat tu préparerais à ta compagne pour une soirée amoureuse, comme t'es bon cuisinier.
Qu'est-ce que
tu ferais pour lui faire plaisir
Déjà, comme je la connais aussi, c'est un peu différent. Ouais. Donc je choisirais un morceau comme vin.
Ah, en plus tu réponds à la question d'après, on allait dire quel genre de vin.
C'est vrai.
Ah, mais super, ok.
Mais comme je la connais, j'ai commencé par le vin aussi. Ouais. après, peut-être que je lui ferais un poulet au citron Baldis. Et puis, comme dessert, elle aime bien le gâteau à l'orange que vous avez mangé.
Ouais.
On confirme. Voilà. Très bon. Très
je
bien.
Je ferais quelque chose comme ça.
Ok. Troisième question, parce que tu as répondu du coup à la bouteille de vin que tu allais apporter. Une destination pour un week-end romantique.
Un week-end ?
Oui.
Parce que...
Ou plus ?
Ouais, je l'emmènerai au Japon. On aime bien aller au Japon. Donc je recommencerai, parce que vraiment là-bas, c'est justement, il y a des valeurs incroyables. Mmh. Et quand on ne reste pas dans les lignes, au Japon, on est vraiment très très différent des autres.
Mmh. Ça c'est vrai, c'est très carré comme société quand même. Hein quand on aime la liberté, comme ça au Japon, à Tokyo, Kyoto.
Oui, à Tokyo, Kyoto.
Tokyo.
Mais justement, le fait d'être très libre dans une société qui est très coincée, ça nous rend encore plus libre.
Ouais.
Cherche définitivement la liberté.
Et enfin, un bouquet de fleurs. Quel genre de fleurs tu lui apporterais ?
Des lys.
D'accord.
Fleurs de lys. Mmh.
Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vincent.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup.
Super, de
nous avoir accueillis.
Et, voilà. Et vous savez quoi, à travers vos questions, du coup, on vous connaît un peu aussi.
Ouais. Non, on ne veut pas trop parler de nous. On ne veut pas trop parler de nous, mais bon. Écoutez, tant mieux si vous apprenez à nous connaître, les auditeurs. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va nous écrire.
Nous interroger.
Qui sait ?
On va transformer.
Ouais.
Et c'est très, très rare. Parce que souvent, pour séduire une femme... Il y a une technique, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une technique, c'est de l'écouter.
Ouais, ça c'est vrai.
Et quand elle rentre chez elle, elle dit « j'ai rencontré un mec avec qui on peut discuter ».
Ouais.
Et vous, vous intéressez aux hommes et c'est rare.
Merci.
Nous, on écoute les hommes.
Ouais, exactement. Merci beaucoup Vincent.
Merci Vincent.
À vous.